au 99.1 88.9 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
On commence cette émission avec une bonne nouvelle, je ne vous dis pas quoi, mais vous allez le savoir bientôt. On aura également Yves Perron, qui est le député du RT Masquilongé, qui nous parlera de la gestion de l'offre. Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerot, sera avec nous. Entrevue avec le maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard, dans le dossier que l'on connaît tous maintenant. Pierre Paquette sera avec nous. Et il y aura, bien sûr, la capsule de la Troquelle tout de suite après notre émission. Mesdames, messieurs, bonne émission.
PM, affaires judiciaires et policières.
Je suis actuellement en compagnie de Pierre Jubinville, notre collègue de travail. Pierre, j'aimerais d'entrée de jeu te mentionner que dans notre métier, il y a des moments particuliers où on est heureux de faire ce métier-là parce qu'on a, on a souvent des mauvaises nouvelles annoncées.
Et habituellement, ce sont de mauvaises nouvelles.
Et cette fois-ci, ce sont de bonnes nouvelles.
Oui. Quel soulagement, la petite Claire Belle, 3 ans. Qui vient d'être trouvé. On va écouter Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec.
Elle était consciente, elle parlait. Donc, bien sûr, on va faire vérifier son état de santé compte tenu de la situation, mais elle a été prise en charge par des policiers. Tout ça se passe du côté ontarien. Donc, un grand merci à nos collègues de la police provinciale de l'Ontario. Ce sont eux qui avaient amorcé des recherches terrain et ce sont eux qui l'ont retrouvée. Donc, c'est sûr que c'est un scénario qui était le meilleur qu'on puisse envisager. Hein? On le disait, on avait hâte de la retrouver.
Alors, ça s'est passé du côté de Saint-Albert, hein, vous allez me préciser.
Oui, dans le bout de Castleman également, entre Saint-Albert et Castleman, sur la 417.
C'est quand même un bout, hein?
Oui, oui, ouais, elle est disparue depuis 4 jours. De Ville-la-Salle, en plus, on n'avait pas de ses nouvelles. Et ce sont des drones de l'OPP ont permis de la retracer.
On sait que la mère a été vue à Castleman dimanche,
oui,
donc il y a quelques jours.
Probablement que c'est elle qui l'a malheureusement laissé en plan.
Apparemment, et on en parlait à micro fermé, qu'elle aurait laissé comme ça la fillette sur le bord de la route, un peu comme on laisse un animal de compagnie.
Exactement, exactement. C'est cruel.
C'est absolument... Bon, elle a 3 ans. Elle sera-t-elle marquée par ça?
On espère que non.
On a également un second extrait.
Madame Cossette qui nous dit que c'est grâce à un travail acharné police-citoyen qu'on a réussi à...
On veut remercier vraiment la population qui a embarqué, tu sais, qui nous a transmis de précieuses informations. Puis si on arrive à ce résultat-là aujourd'hui, ben c'est grâce à la collaboration, à la participation de tout le monde. Donc, notre travail ne s'arrêtera pas là, hein, bien sûr, sécuriser cet enfant-là.
Pierre, ce dossier-là soulève des interrogations, notamment quant à l'absence du déclenchement d'une alerte Amber.
Oui, on se questionne là-dessus parce que c'est... Semble-t-il que ce cas-là ne cochait pas toutes les cases. Alors,
c'est
pourquoi,
ça.
On ne sait pas.
Il y a 3 critères précis qui doivent être respectés pour déclencher l'alerte Amber. Service de police qui doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'un enfant était victime d'un enlèvement.
Dans ce cas-ci.
Il me semble que c'est évident. Circonstances entourant l'événement doivent indiquer que la vie ou la sécurité de l'enfant est en danger.
Même chose.
Alors, moi, je coche deux fois, là.
Oui.
C'est pas pour vous, là.
Même chose.
Pour toi.
Ouais.
Et troisièmement, le service de police doit posséder suffisamment de renseignements descriptifs sur l'enfant, le suspect ou le moyen de transport utilisé.
Non,
c'est peut-être
suspect,
là où ça achoppe.
Ben, pas vraiment.
Mais
le
pas
suspect,
vraiment,
c'est
oui.
La mère. Et les photos d'enfants, on les a vues partout. Là.
Alors,
il n'y a pas de raison.
Et quand ces 3 conditions-là sont réunies, et les informations, là, on nous dit du côté des services policiers que les informations disponibles ne permettaient pas de conclure qu'il s'agissait d'un enlèvement. C'est pourquoi l'alerte n'a pas été déclenchée. Cependant, Sûreté du Québec qui dit « on a été en alerte médiatique ». Ce qui veut dire qu'ils ont mis les médias à contribution et invité l'ensemble de la population à partager le plus possible les publications.
Ouais, ça semble avoir porté fruit, mais ça aurait été mieux qu'une alerte Amber.
À ton avis, est-ce qu'on devrait réviser un peu les critères?
Je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais. D'ailleurs, ils vont se faire poser des questions tantôt parce que la Sûreté du Québec et l'OPP donnent une conférence de presse conjointe. Ils vont devoir sûrement répondre à cette question.
En terminant, Pierre, au Québec, la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal sont les deux seules autorités habilitées à déclencher une alerte Amber. Okay. Les autres corps policiers, tout comme, en tout cas, par exemple, la GRC, Gendarmerie Royale du Canada, ces gens-là agissent comme partenaires dans le processus. Et la durée minimale de diffusion d'une alerte est de 5 heures à partir de l'activation. Et si elle est lancée après 21 heures dans une soirée, eh bien, elle doit être diffusée au minimum jusqu'à 9 heures le lendemain matin. Mais comme tu dis, et tu as parfaitement raison, je pense qu'il y aura beaucoup de questions à poser.
Il y a une révision à faire, ouais. c'est clair.
Merci, Pierre
Jouvinville.
Merci.
Bye.
Très, très bonne nouvelle. Je vous le rappelle, mesdames, messieurs, la jeune Claire Belle qui a été retrouvée vivante du côté de Saint-Albert en Ontario.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple. L'ASF Lanaudière vous informe. Voici Caroline Séguin.
Depuis octobre 2023, trois changements à la loi sur la protection du consommateur offrent une protection anti-citron dans le domaine de la vente et de la location automobile. Le premier changement donne droit au propriétaire ou locataire à long terme d'une voiture dont les problèmes continuent après plusieurs essais de réparation sous garantie de demander au tribunal de déclarer la voiture comme étant gravement défectueuse. Le deuxième changement interdit maintenant aux commerçants d'exiger des frais injustifiés à la fin d'un contrat location comme de facturer des frais parce qu'une pièce installée pendant l'entretien normal ne répond pas à leurs critères. Enfin, le troisième changement stipule qu'au moins 90 jours avant la fin d'un contrat de location à long terme, conclu après le 5 avril 2024, le commerçant doit offrir une inspection gratuite. Pour connaître les détails d'application de la loi et ses détails, visitez la section infolettre au asflanaudière.ca.
Pour plus d'informations sur l'Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière, rendez-vous à asflanaudière.ca ou appelez au 450-756-1633.
Pis Simon, ta pub Royal Lepage?
J'hésite à te parler de la protection royale que j'offre à mes clients acheteurs et vendeurs
ou utiliser un verre d'oreille comme...
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel
et commercial.
Non, pas ça.
Ah, 450-803-9871. Royal Lepage partenaire, agence immobilière.
Les rénovations sont terminées au Maxi Saint-Michel-des-Saints, situé au 110 rue Brassard. Découvrez l'expérience complète. C'est un rendez-vous pour de la fraîcheur, des offres exclusives et plein de bas prix.
Le Festival Chantiel vous invite à célébrer sa 21e édition du 27 au 29 juin. Les passionnés de musique traditionnelle sont tous conviés à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour vivre un week-end unique et mémorable. En spectacle, voyez entre autres Le Rêve du Diable, Le Vent du Nord, Grosse-Île, Les Mononcles, La Famille au coin, Solstice, La Fosse et bien plus. Plongez dans les traditions en participant à des ateliers d'instruments, de danse, de chansons, à des sessions de musique, à des veillées de danse et encore plus. Les billets et les passeports sont en vente à chantevielle.com. Le Festival Chantevielle, du 27 au 29 juin, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Avec vous, partout dans la Naudière.
L'Assomption, Saint-Roch-Ouest, Manawan, Joliette.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, avec la musique, on se trompe pas.
La Naudière PM, politique fédérale.
Il est 16h17. Eh bien, le Bloc québécois célèbre une victoire qu'il qualifie d'importante pour la démocratie et pour le monde agricole. C'est l'adoption par le Sénat, sans amendement, du projet de loi C-202 sur la protection de la gestion de l'offre. François Morin en discute avec le porte-parole en agroalimentaire et en agriculture au Bloc, le député de Berthier-Masquilongé, Yves Perron.
Vous savez, le Sénat, c'est une chambre qui est de gens qui sont non élus, donc ils doivent respecter la volonté démocratique des élus de la Chambre des communes. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a clarifié le message. Lors de la dernière législature, ils auraient dû adopter le projet de loi qui avait été appuyé par 80% des élus de la Chambre des communes. Mais bon, avec les groupes d'opposants, puis d'obstruction, puis la pression politique, un certain groupe a décidé de bloquer le vote parce qu'il savait très bien que le vote final, on allait le gagner. On en a eu la preuve hier. Là, il y a eu une élection générale pendant laquelle on a parlé beaucoup de gestion d'offres. Où nous, on s'est engagé à le déposer dans la première semaine, ce qu'on a fait, Le jeudi de la première semaine, on a redéposé le projet de loi. Et là, la Chambre des communes l'a adopté de façon unanime. Et c'est assez difficile, à ce moment-là, de se trouver une légitimité pour venir refuser la volonté des élus. On était fraîchement élus, il y en a été question dans la campagne électorale, le chef libéral s'était engagé à la reprotéger. Il y en est mention dans le discours du trône quand même, c'est rare là, qu'on parle d'agriculture dans le discours du trône. Donc, moi, je voyais pas comment. Bien sûr, connaissant le Sénat maintenant mieux qu'avant, on peut s'attendre à tout, mais on était quand même très confiants. Donc, on est hier, c'est un soulagement intense, d'une joie intense aussi. Vous savez, depuis 2019 qu'on est là-dessus. Puis au départ, tout le monde nous disait c'est bien beau, c'est bien cute, c'est un beau projet de loi, vous allez faire des points politiques avec ça, mais il sera jamais adopté. Eh bien, on a prouvé le contraire. Voyez-vous, on ne leur avait pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ça un moment donné, je trouve ça très beau comme phrase.
Et à partir de maintenant, pour que les gens comprennent bien là, ce que ça représente, la gestion de l'offre, c'est qu'il y a nos produits, nos principaux produits là, québécois qui seront protégés.
Voilà, donc la volaille, donc le poulet et le dindon, les œufs d'incubation et les œufs de consommation, ainsi que le lait, sont des marchés qui sont protégés, où les producteurs produisent une quantité limitée selon le besoin du marché. Donc, il n'y a pas de gaspillage alimentaire, c'est meilleur pour l'environnement, déjà là. On fixe le prix selon le coût moyen de production, donc on n'encourage pas les entreprises qui sont pas bonnes, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, là, c'est le contraire. Ça force à la performance. Ça donne surtout à nos entreprises une prévisibilité. Et pour faire tout ça, ben il faut bloquer ce qui rentre de l'extérieur. C'est inévitable. Et c'est là que le gouvernement canadien jouait là depuis dans les trois derniers accords commerciaux là, avec l'Europe, avec le Transpacifique et ensuite avec l'accord États-Unis-Mexique. Et là, nous, on vient de mettre un frein à ça. C'est écrit dans la loi que le ministre du Commerce international n'a pas le droit de mettre ces productions-là sur la table dans une négociation commerciale. Tout gouvernement qui voudra faire une nouvelle concession dans ce modèle-là devra revenir devant le Parlement et modifier la loi. Ce qui aura un très lourd coût politique. Donc, on peut dire que la gestion de l'offre, son avenir est pérennisé. L'avenir de nos régions est pérennisé. Nos petites écoles vont avoir des enfants dedans parce qu'il n'y aura pas une seule ferme dans le village. Il va continuer à en avoir plusieurs. Les petits commerces vont continuer à rouler. Les régions éloignées, on sait qu'il y a un partage des coûts de transport dans les productions sous gestion de l'offre. C'est équitable pour tout le monde. Donc, ce n'est que positif pour le Québec, mais aussi pour le Canada. C'est pour ça qu'on a réussi à le faire passer aussi, là. Ça, c'est une des prémices qu'on entendait, là. Ah, le Bloc québécois, c'est une gang des séparatistes. Non, le Bloc québécois, c'est oui. On est des indépendantistes. Oui, on veut que le Québec soit un pays, mais dans l'intermède, on travaille pour le bien commun. Ça, c'en est une maudite belle démonstration.
Évidemment, comme toute loi, il faudra s'assurer de son application lors des prochaines négociations d'accords commerciaux.
Absolument, absolument. Puis, on va veiller au grain. Inquiétez-vous pas. Bon, on est bien contents. On va célébrer ça aujourd'hui. Ça nous fait une belle session, très positive. Et puis, moi, j'ai le goût de dire aux producteurs qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, qui travaillent fort pour nourrir notre population, j'ai le goût de leur dire, continuez votre beau travail, puis merci beaucoup pour ce que vous faites. On a fait le petit bout qu'on pouvait faire. Voilà.
Lanaudière PM, politique municipale.
Eh bien, la ville de Joliette aura de plus en plus recours aux nouvelles dispositions de la loi 31. Ça fait quoi, la loi 31? Ça leur permet de passer outre à un référendum pour les projets de construction de logements. Elle l'a fait encore hier soir en adoptant une résolution pour un projet de 60 logements qui seront construits sur le site de l'ancien bar, le Sterling, sur la rue Lajoie. François Morin, encore lui, ben oui, il travaille fort, notre François, a échangé avec le maire Pierre-Luc Bellerose.
On a déjà procédé avec la loi 31 concernant Aqualoca. Donc, effectivement, c'est quand il y a des dérogations là, de zonage qui sont accordées, il y a des conditions de respecter des exigences, que ce soit au niveau de l'intégration architecturale, de verdissement ou de l'aspect du voisinage. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que on fait fi à ce moment-là du vote référendaire. Par contre, ce qui est important de signaler, parce qu'on a eu un autre projet là, de loi 31 la semaine dernière, on avait la consultation publique concernant là, un projet là, de 33 logements au coin de Papineau et de Juge-Dubeau. Il faut que les gens comprennent que même si on leur enlève leur droit là, de s'exprimer par vote, on les reçoit quand même en consultation publique, puis on est vraiment là à l'écoute, on est attentif à leurs appréhensions, à leurs suggestions. Puis dans le cas du projet là, Coin Papineau et Juge Dubot, ben on a décidé là de reporter parce qu'effectivement il y a des questions qui n'étaient pas là assez étoffées du côté de l'entrepreneur, du promoteur, et puis il y a des éléments qui ont été soulevés par les citoyens qui ont amené là une réflexion des membres du conseil. Donc, faut que les citoyennes soient bien conscients que leur voix compte, puis c'est important là de s'impliquer dans le processus parce qu'on les écoute vraiment. Puis au niveau d'Aqualoca, on est allé de l'avant, la construction est débutée. Par contre, il y avait des enjeux au niveau de la piste cyclable et il y a eu des aménagements qui ont été apportés. Les gens aussi sont pas nécessairement, je dirais, encore chauds à la densification. Peut-être aussi qu'il y a des cas là, d'autres villes qui les effraient. Donc, on essaie de faire ça harmonieusement. Donc là, le prochain pour la loi 31, c'est au coin là, de La Joie et de Notre-Dame, ce que les gens connaissent là, comme le site du Sterling. Donc, on parle là, de 60 logements multifamiliaux. C'est un projet mix avec du commercial là, au rez-de-chaussée. Donc, c'est dans la volonté du conseil de densifier le centre-ville. Ça fait quand même, je vous dirais, très longtemps qu'il n'y a pas eu de projet de cette envergure-là. Donc, faut s'appeler aussi qu'on a, je vous dirais, une clientèle étudiante avec le cégep, plus de 2000 étudiants. Donc, on a des gens aussi de plus en plus qui n'ont pas nécessairement de voiture, qui veulent être à proximité de service. Puis ça va venir aussi animer la vie au centre-ville. Donc, c'est vraiment la volonté du conseil de densifier au centre-ville. Puis, il faut comprendre aussi qu'on doit rencontrer une certaine acceptabilité sociale. Donc, dans certains quartiers où on a davantage des maisons unifamiliales, c'est moins compatible. Il y a des enjeux là, d'acceptabilité. Donc, le centre-ville se prête mieux. Puis ça, je pense que ça va être un projet là, important pour la suite des choses. Donc, on va s'assurer que ça se passe bien pour qu'on puisse se servir là, de ce projet-là comme pierre d'assise là, pour la densification du centre-ville de Joliette.
Consultation publique, donc, le 8 juillet.
Exactement. Les gens peuvent aussi nous faire parvenir là, des courriels, des messages ou peuvent s'exprimer de différentes façons. Idéalement, c'est sûr que on les invite à se présenter. Il y a toujours, de toute manière, une présentation du promoteur, de l'architecte. Souvent, il y a un urbaniste, il y a une équipe qui est là sur place pour répondre aux questions des citoyens. Donc, comme je le disais, l'important, c'est d'être courtois et d'apporter des points constructifs. Puis le conseil est vraiment à l'écoute. Moi, j'assiste pratiquement à toutes ces consultations-là, justement, pour vraiment là, être au fait, puis bien comprendre c'est quoi les enjeux pour les citoyens, c'est quoi leurs inquiétudes. Puis souvent, on trouve des voies de passage. Parfois, ça peut être de diminuer le nombre d'unités, le nombre d'étages. Ça peut être d'implanter une haie. Il y a toutes sortes d'alternatives. Puis il y a d'autres fois, comme dans le dernier projet, où on décide, bon, on dit, écoutez, peut-être que le projet n'est pas mûr, il y a des questions sans réponse. Donc, on retire là, en quelque sorte notre appui, le temps d'avoir les réponses, puis le temps aussi de proposer un autre projet à la population qui va être davantage compatible. Donc, je le réitère, là, c'est important pour le conseil de faire ça là, en adéquation avec les attentes puis avec les besoins de la population.
90 logements au total, 30 pour le premier, 60 pour celui d'hier. C'est modeste, mais c'est un début.
C'est modeste, mais comme je l'expliquais, ça doit être aussi compatible avec le milieu. Il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de difficultés d'acceptabilité sociale, les raisons que j'ai évoquées, une crainte de perte de qualité de vie. Puis les gens aussi comparent peut-être avec d'autres communautés où ça a été moins heureux, où il y a même des villes, on le sait, où il y a eu des pénuries au niveau de l'eau. Donc les gens ont certaines inquiétudes. Les gens n'ont pas nécessairement non plus, je vous disais, cette vision des choses. Là, on n'est pas encore très densifié, je l'ai dit tout à l'heure, là, on est autour de 9 à 10 unités à l'hectare, donc c'est vraiment un changement de paradigme important, puis ça va évoluer au fil, là, je vous disais, des années. C'est pour ça qu'on doit le faire de façon graduelle, harmonieuse. Il y a eu quand même aussi Aqualoca, là, on parle quand même de plusieurs centaines là, de logements, d'unités. Il y a d'autres projets sur la table. Je vous disais, dans les prochaines années, il y a entre 4 et 5 000 unités là, qui sont sur la planche à dessin. Évidemment, elles ne se concrétiseront pas toutes pour les raisons que je vous ai nommé, aussi des questions de financement. Donc, on est confiant quand même dans les prochaines années de voir là, plusieurs là, habitations se construire. Puis de l'autre, vous avez l'autre volet qui est important pour nous. On a 427 unités à l'Office municipal d'habitation. Donc, avant de penser à des nouvelles constructions, on doit s'assurer aussi d'avoir des milieux de vie sereins, des milieux de vie aussi salubres, parce qu'on avait des enjeux là, de, il y avait des vis de construction, des bâtiments qui étaient vraiment désuets.
Ça reste encourageant, 4 à 5 000 constructions éventuellement dans l'avenir et beaucoup d'autres, en espérant qu'il y en ait beaucoup qui soient abordables pour les gens. Au retour du bloc publicitaire, on s'informe. Avec qui? Ben oui, avec François Morin.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Eh bien, ça s'est un peu gâté du côté de la 25 Nord. Là, vous êtes nombreux là, à prendre le pont payant. Et ça paraît, c'est au ralenti, comme ça, jusqu'après la jonction 25-440. Pont Sophie Masson, c'est pas si mal. Ça circule quand même relativement bien. Un peu au ralenti à l'approche, mais par la suite, vous recirculez bien. 640 du côté S, c'est quand on arrive tout près de la jonction 46-40 que ça se gâte. Dans l'ouest, c'est au ralenti à cause des travaux, bien sûr. On réaménage, imaginez-vous, un ruisseau à Terrebonne, à l'arrondissement Lachenaie, à l'autoroute 40, qui est la montée des pionniers. Pont-le-Gardeur par la rue Sherbrooke ou par la rue Notre-Dame, ça circule bien encore là. Et 40 Est, Repentigny, ben, c'est très au ralenti à la hauteur du boulevard Bourget, comme ça jusqu'au pont d'étagement du CN. Par la suite, eh bien, vous traversez le pont Charles de Gaulle assez bien. Peut-être au ralenti sur le pont, mais une fois de l'autre côté, ça se remet à circuler. Il y a cependant des travaux du côté de la 40 Ouest. Il y a une inspection de structure sur la voie de desserte. Et voilà. Alors, ça fait le tour, mesdames, messieurs.
Le mercredi, à partir de 16h, le burger du jour vous est offert à 5$ de rabais à l'échappée Grill et Bar Sportif. Chaque semaine, on vous propose un burger différent parmi nos classiques et nos nouveautés. Vegan ou celiac, on arrange ça. Ah ouais donc, 450-394-1658.
Cirque Coligny, équipage recherché. Les 21 et 22 juin, le capitaine Madjack Rackham recrute un dernier marin pour une quête au trésor. Acrobatie aérienne, équilibre et combat scénique rythment cette aventure immersive portée par une trame musicale originale au Festival du Cirque Bastringue. Un spectacle familial idéal pour les 5 à 10 ans. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Ma Tante Roulotte. Fromage à raclette, confit d'oignons et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Amateurs de pêche, le Festival de la truite mouchetée vous invite à venir taquiner le poisson et vous amuser au cœur du village de Saint-Alexis-des-Monts. Du 21 au 29 juin, gratuit pour tous et sans permis pour les résidents du Québec. Bingo, feu d'artifice, concours de bûcherons, pêche en famille, jeux gonflables et à ne pas manquer le spectacle de Ludovic Bourgeois le 21 juin, Justin Boulet le 27 juin, Francis de Grandprix le 28 juin, entre autres. Pour les enfants, un gala mini-star pour tous âges. Suivez-nous sur Facebook et Festival de la truitemouchetée.com. Saint-Alexis-des-Monts, le paradis du plein air et de la truite mouchetée.
Bonne fin de journée, François.
À toi demain, Michel.
Écoutez, le maire Bérard de Sainte-Élisabeth sort de son mutisme.
Et la tutelle n'est pas nécessaire, selon M. Bérard, pour régler le problème des relations entre la municipalité et des citoyens qui réclament leur juste sur les finances publiques. La municipalité, on le rappelle, n'a pas présenté d'état financier depuis 2023 et le maire attribue cette situation non pas à un manque de transparence, mais en raison de l'achat d'un logiciel qui a provoqué une série de problèmes, là aussi. Il justifie le recours à l'état d'urgence et compte bien y avoir recours encore si la situation l'exige, et il rejette la mise en tutelle brandie par la ministre des Affaires municipales. On l'écoute.
C'est pas une question de tutelle, M. Arnois, tant qu'à moi. Moi, je pense que c'est une première au Québec d'avoir déclaré une situation d'urgence pour tenir une assemblée du Conseil qui s'est jamais vue à date. Fait que j'ai plus l'article de loi qui nous permet de le faire. Fait qu'à ce moment-là, je l'ai fait pour notre sécurité, puis on espère prochainement, parce que on a eu l'aide, excusez-la en passant, la Sûreté du Québec a venu nous aider lundi soir, deux autopatrouilles, pour parler aux gens, justement, et les conscientiser à respecter les élus quand ils font les assemblées du Conseil.
Il promet maintenant de rendre public les états financiers en octobre, soit quelques semaines avant les élections, et le maire prétend que tout le chaos est dû aux prétentions de citoyens qui ont l'intention de se présenter contre lui.
Moins qu'on puisse dire, c'est que ça clique pas entre les citoyens et le maire.
On peut pas dire non plus qu'il s'en sac.
On aura une entrevue complète avec le maire Bérard dans un instant. Lancement d'une trousse d'accompagnement pour les proches des auteurs d'actes de violence.
Oui, c'est une belle nouvelle, ça. L'organisme au cœur de l'île, dont la mission est d'accompagner dans une démarche de responsabilisation et de changement des personnes auteurs de comportements violents, particulièrement en contexte conjugal et familial, lance une trousse d'accompagnement. Elle s'adresse surtout aux proches de ces personnes, nous dit la directrice générale d'Au cœur de l'île, Chloé Champoux.
Nous, ça a émergé dans le contexte où les proches, ils communiquent fréquemment avec notre organisme pour obtenir de l'information en lien avec nos services, puis voir comment ils peuvent faire pour accompagner leurs proches vers nos services.
1500 exemplaires imprimés sont disponibles, une version en ligne l'est aussi. Il faut tout simplement faire connaître votre intérêt via le site web d'Au cœur de l'île.
Ce n'est pas Tarzan qui est heureux, mais bien le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron.
Quoi qu'il a pratiquement lâché le même cri hier soir à la Chambre des communes, alors le projet de loi C-202 du Bloc québécois visant à protéger le système de gestion de l'offre est adopté par le Sénat canadien sans amendement. Le système de gestion de l'offre s'applique au lait, à la volaille et aux œufs, et ces produits seront donc protégés ad vitam aeternam des futures négociations d'accords de libre-échange. Selon le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en agriculture et agroalimentaire, Yves Perron, le Sénat s'est tout simplement incliné face à la démocratie.
Là, la Chambre des communes l'a adopté de façon unanime. Et c'est assez difficile à ce moment-là de se trouver une légitimité pour venir refuser la volonté des élus. On était fraîchement élus, il y en était question dans la campagne électorale, le chef libéral s'était engagé à la reprotéger. Il y en est mention dans le discours du trône quand même, c'est rare là, qu'on parle d'agriculture dans le discours du trône. On était quand même très confiants. Donc on est, hier, c'est un soulagement intense, d'une joie intense aussi.
Belle reconnaissance pour une des équipes du CIS de la Naudière.
Oui, c'est la direction de l'approvisionnement et de la logistique du CIS de la Naudière qui était finaliste au prix Excellence 2025 de l'Association québécoise de la logistique et de l'approvisionnement du secteur de la santé. Dieu sait des fois que c'est compliqué dans ce domaine-là. Alors, c'est le projet nommé « Mise en place d'une chaîne logistique intégrée des fournisseurs aux unités de soins » qui a permis justement à la direction de se démarquer. Le projet nommé comme ça se décline en quatre initiatives mises de l'avant afin d'améliorer l'efficience opérationnelle des commandes des départements. Alors la première, c'est l'élaboration d'un catalogue organisationnel comprenant les 4000 produits entreposés au centre de distribution régional. La deuxième, c'est la prise en charge virtuelle des activités d'approvisionnement centralisées des unités de soins. La troisième initiative, c'est la prise en charge du réapprovisionnement du centre de distribution. Et la quatrième, c'est l'optimisation de la performance des fournisseurs par le biais de rencontres fréquentes avec ceux-ci et la mise en place de tableaux de bord.
En terminant, à Mascouche, il est possible de pratiquer des sports et certains loisirs grâce à la technologie.
Oui, à Mascouche, on a installé une station style box-up. En fait, c'est accessible au parc du Grand Coteau. C'est une borne extérieure alimentée à l'énergie solaire qui permet d'emprunter gratuitement du matériel de sport et de loisirs en tout temps à l'aide d'une application mobile. Facile à utiliser, donc la station encourage l'activité physique et le jeu libre. Il suffit tout simplement de télécharger l'application gratuite BoxUp, de créer un compte et de déverrouiller un casier via Bluetooth. Une fois l'activité terminée, il suffit de replacer le matériel dans le casier tout simplement, puis compte tenu que d'une certaine façon, c'est identifié, si vous ne faites pas ça, si vous ne le remettez pas à sa place, on va savoir que c'est vous.
On n'arrête pas le progrès.
Et le casier contient notamment des bâtons de marche, des tapis de yoga, un jeu de balles de rebond, des patins à roues alignés ajustables pour enfants avec casque et protection, des jumelles, des boussoles pour l'observation de la nature et même un guide sur les insectes et des jeux éducatifs sur la nature. Ça complète. D'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9-CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Il est 16h37, toujours en direct du studio Joliette Nissan. Le maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard, affirme que ce sont ses opposants politiques qui sèment le trouble depuis plusieurs mois au conseil municipal. On sait que ça brasse dans ce coin-là. Monsieur Bérard est d'avis que les élections de novembre prochain ne sont pas étrangères à ce qui se passe. Je lui ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Monsieur Bérard, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça brasse chez vous.
Mais présentement, c'est parce qu'il y en a qui veulent se préparer pour les prochaines élections. Fait qu'on a décidé de faire un brassage plus que la normale. Fait qu'à ce moment-là, pour justifier leurs élections, c'est triste parce que c'est ça qu'on vit depuis un an. Là.
Maintenant, moi, il y a la sécurité publique qui a indiqué que oui. C'était illégal, là,
oui.
L'état d'urgence, je pense que ça prenait
le ministère de la Sécurité publique, là, j'ai jasé avec M. Donnez, là. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que la problématique de M. Donnez, c'est qu'il a oublié de mentionner à l'autre journaliste que j'ai jasé ce matin que ça ne touchait pas. Lui, ça touche juste les dommages matériels. Lorsqu'il y a des inondations, des ouragans, des choses comme ça, mais ça ne touche pas au niveau du civil, les personnes touchées. Comme l'article dans le code municipal qui me demande de protéger les élus et les employés de la municipalité. Fait que lui, ça ne touche pas ça.
Il reste
c'est
que
quelqu'un
ça...
du ministère des Affaires municipales et de l'habitation qui avait demandé de m'appeler. Mais finalement, là, l'appel que j'ai eu de lui là, ne s'adressait pas à moi. Parce que quand on est rendu à protéger les gens au niveau du civil, c'est la Sûreté du Québec qui s'occupe de ça.
Ça reste une bousculade. Là. Il n'y a pas eu... c'est un manque de respect, ça, je vous l'accorde. Mais il reste que c'est pas si grave que ça pour déclarer l'état d'urgence, vous croyez pas?
Qui vous a dit ça? C'est juste une bousculade?
Ben, on a pu lire ça là, sur les réseaux sociaux.
Oui, mais c'était pas juste une bousculade, je m'en excuse. Là, c'était pire que ça.
Ah oui?
Les gens en question ils ont été blessés, ont fait une déclaration à la Sûreté du Québec. Donc, il y a trois employés municipaux qui ont été blessés. Les déclarations ont été faites à la Sûreté du Québec et la Sûreté du Québec va faire son enquête.
Blessés comment?
Pardon?
Blessés comment?
Il y en a, c'est physiquement. Il y en a d'autres, c'est un langage assez vulgaire.
Un langage ordurier, oui, je suis d'accord.
Exact.
Donc, vous mettez là... La situation actuelle à Sainte-Élisabeth sur le dos là, des futures élections qui approchent. Et c'est une façon pour vos opposants d'attirer l'attention.
Effectivement, ils exagèrent beaucoup plus que ce que ça devrait être présentement. Comme à la dernière réunion lundi soir, je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter, j'ai eu la question qui m'a été posée. Puis à ce moment-là, ben, j'ai dit, on va revenir à la normale. Quand les gens vont bien se comporter normalement lors d'une séance du conseil. Parce que là, ça fait plusieurs mois que n'importe quand, pendant une séance du conseil, on se lève, on crie, on applaudit, on coupe la parole aux élus qui parlent. Ça dérange pas personne. C'est pas grave. C'est correct.
C'est pas une indication qu'il y ait 50-60 personnes au conseil qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond?
Bien, présentement, M. Arnois, on a acheté, nous, en 2023, un nouveau logiciel administratif. Malheureusement, ce logiciel-là nous a donné beaucoup de problèmes à gérer. Et là, présentement, on a pris les dispositions pour corriger la situation. Fait que nos états financiers de 2023-2024 devraient sortir d'ici le 1er octobre de cette année. Parce qu'on a engagé du nouveau personnel aussi pour nous aider dans ce sens-là. pour corriger la situation. C'est quand même pas une raison pour arriver au conseil et crier, sauter en l'air, faire n'importe quoi, là. On est capable d'expliquer aux gens où ce qu'on est rendu. On est capable d'expliquer c'est quoi la situation. Les gens n'ont pas d'affaire à faire ce qu'ils font là présentement du tout.
Donc,
c'est pas une raison ça, à le faire ça.
Le logiciel en question là, vous retarde depuis 3 ans pour déposer vos états financiers.
Ben, c'est pas 3 ans, il est acheté à l'été 2023. Ça fait 2 ans là, qu'on l'a. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est ça qui est arrivé.
C'est assez particulier là, que les citoyens ne peuvent pas voir les états financiers.
Les états financiers audités par la vérificatrice, effectivement, vous avez raison. Mais comme je vous ai dit tantôt, on a pris des mesures administratives. Il y a eu beaucoup de changements dans les employés aussi depuis 2 ans, ce qui n'a pas aidé. Et là, présentement, on a des nouveaux employés qui sont rentrés depuis l'automne dernier, qui savent quoi faire, comment gérer ça, ce logiciel-là, qu'on est en train de faire les bonnes écritures pour tout corriger la situation, puis qu'on devrait fournir tous les états financiers audités par le vérificateur vers le 1er octobre, on espère.
Je sais que vous êtes sous le coup d'une entente de confidentialité concernant un employé qui a été... il y a eu une entente là, de 40 000 $. Il ne trouvait pas que c'est beaucoup d'argent?
Vous savez très bien comme moi qu'il y a les normes du travail qui s'appliquent quand quelqu'un quitte. Donc, il y a une partie de ce montant-là qui s'applique aux normes du travail. Puis, il y a une autre partie de ce montant-là qui, malheureusement, touche la personne au niveau du non-respect de cette personne-là. Fait que le règlement à l'amiable qu'on fait avec cette personne-là, qui n'ira pas plus loin dans ses poursuites, je pense que c'est à l'avantage de la municipalité d'avoir réglé ça comme ça.
Vous souhaitez quoi, M. Bérard, pour la suite des choses?
Que les gens reviennent à la normale des choses, que quand on assiste à une réunion, on écoute, puis qu'on pose nos questions juste à la période de questions, puis qu'on respecte les élus en avant, qui font un gros travail pour la municipalité, pour que ça y aille tout bien. Puis vous savez, comme vous puis moi, là, on fait toujours notre possible avec les gens qu'on engage pour que ça y aille bien. Mais des fois, on peut avoir aussi des surprises, ça arrive. Fait que tout ce que je souhaite, c'est que tout devienne normal d'ici la fin de l'automne.
Fini l'état d'urgence bientôt?
L'état d'urgence était de 48 heures, M. Arnois.
Donc c'est terminé. Là.
Fait qu'il se termine ce soir. Lundi. Oui, c'est ça. Ce soir. Fait qu'à ce moment-là, l'état d'urgence, c'est juste pour la tenue des assemblées du conseil pour la sécurité des élus et du personnel administratif.
Pensez-vous que vous allez éviter la tutelle?
C'est pas une question de tutelle, M. Arnois, tant qu'à moi. Moi, je pense que c'est une première au Québec d'avoir déclaré une situation d'urgence pour tenir une assemblée du conseil qui s'est jamais vue à date. Fait que j'ai plus l'article de loi qui nous permet de le faire. Fait qu'à ce moment-là, je l'ai fait pour notre sécurité. On espère prochainement, parce qu'on a eu l'aide, excusez-la en passant, la Sûreté du Québec a venu nous aider lundi soir, 2 autopatrouilles, pour parler aux gens, justement, et les conscientiser à respecter les élus quand ils font les assemblées du conseil. Donc, il y a eu 4 policiers qui, pendant 2 heures, ont parlé aux gens qui étaient à l'extérieur pour les conscientiser. Toujours les mêmes groupes de personnes. Fait qu'on espère que dans l'avenir, ça devrait amener quelque chose de positif.
Écoutez, M. Bérard, on va vous souhaiter que les choses se calment du côté de Sainte-Élisabeth.
Je sais que je ne suis pas la seule municipalité au Québec qui est dans cette situation-là, mais nous autres, je pense que ça a pris d'ampleur comme ça n'aurait pas dû jamais être. Mais on va souhaiter que ça y aille pour le mieux.
Là où je suis d'accord avec le maire Bérard, c'est qu'il faut que les citoyens respectent les élus, mais il faut également que les élus respectent les citoyens.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beau Soir Pétro-Canada. Épicerie Forêt et Pharmacie Nancy Gaudreau à Saint-Charles-Borromée, Dépanneur Couche-Tard, Dépanneur Rapido, Dépanneur Bonnie-Soir-Chelles, Dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor, à Saint-Pierre, Dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, Dépanneur 350 Bonnie-Soir, Dépanneur des Prairies et Marché Philippe, et à Saint-Paul-de-Joliette, Dépanneur Bonnie-Soir, Dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Matantroulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
En grande première mondiale, le Cirque Alphonse dévoile son tout nouveau spectacle pour tous dès le 19 juin au Festival de Cirque Bastringue. Avec musique en direct, chant, cirque, audace et danse, cette troupe lanaudoise de renommée internationale vous invite à une célébration déjantée où humour, poésie et performance spectaculaires s'entrechoquent. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com.
Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1,
88.9,
CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
On retrouve avec beaucoup de plaisir Pierre Paquette. Pierre, le gouvernement impose des compressions importantes dans le système d'éducation. Au moins 570 millions de dollars. Il y en a certains pour dire que ça va frôler le milliard selon les centres de services scolaires. Pas jojo, ça?
Non, c'est pas drôle. Puis il y a quelque chose d'assez contradictoire que le gouvernement Legault, en même temps, fait des compressions dans l'éducation. On parle bien évidemment de son ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et demande au gouvernement fédéral de limiter l'immigration parce que les écoles débordent. Et même chose pour le système de santé. Alors, si nos écoles débordent, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont encore plus importants qu'il y a quelques années. D'ailleurs, il y a eu 100 000 élèves de plus depuis 2018.
C'est énorme. C'est énorme, oui.
Et la moitié sont nés à l'extérieur du Québec. Donc, ça veut dire des besoins de francisation, des enfants qui ont peut-être connu la guerre. Pensons aux quelques réfugiés qui sont arrivés au Québec de Gaza et donc qui nécessitent des soins particuliers, des services particuliers. Et c'est ces services-là qui vont être coupés par ces compressions-là, parce qu'il faut se rappeler que dans le budget de l'éducation, 80% c'est les salaires. Donc ça, c'est conventionné, on peut pas toucher à ça.
Mais si on donne pas ces services-là à ces enfants-là, à ces étudiants-là, on les pousse un peu vers l'échec.
Oui, pousse vers l'échec, puis aussi la marginalisation, alors que ce qu'on cherche à faire au Québec, c'est justement une intégration où particulièrement les nouveaux arrivants vont être capables de trouver leur place. Ben, on hypothèque énormément leur avenir. Et là, j'entendais Bernard Drainville parler de l'intelligence artificielle. Là. Je pense qu'on n'en est pas là de trouver des solutions via l'intelligence artificielle. Je pense que le gouvernement fait une analyse comptable à courte vue. Et malheureusement, c'est souvent le cas pour le gouvernement Legault.
Moi, j'aimerais que le gouvernement fasse preuve d'intelligence ministérielle.
Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, de voir à plus long terme, là, on va économiser peut-être 570 millions cette année, mais on va créer des problèmes pour des milliards plus tard. Ça fait que c'est vraiment une approche à courte vue. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que du côté du gouvernement Legault, on veut pas utiliser le mot en A, austérité, là, qui a fait si mal au gouvernement Couillard, mais dans les faits, c'est ce qu'on vit présentement. C'est un budget, des budgets d'austérité avec des coupures un peu dans tous les secteurs. Et c'est dû en grande partie aux baisses d'impôts que M. Legault et le gouvernement de la CAQ ont donné au début de leur mandat, qui leur a coupé un peu les ressources pour répondre aux besoins véritables des Québécois et des Québécoises. Alors, c'est un peu une illustration de tous les problèmes que vit la CAQ actuellement.
Il y a le mot en A qui fait peur, mais le mot en oui. S, là, le mot sondage également, ça leur fait peur.
Oui. Ben, je sais que vous avez parlé avec Jacques hier du sondage qui met les libéraux en avance sur la CAQ. Là. Je pense que ça devrait faire réfléchir M. Legault. Et moi, je continue à penser qu'il va quitter avant début 2026, peut-être même avant la fin 2025, parce que je vois pas là comment ils vont être en mesure de redresser la barre.
Pierre Paquette, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, mon cher.
On remercie les gens qui ont participé à notre émission aujourd'hui. Pierre Jubinville, qui est venu nous parler d'une très bonne nouvelle en début d'émission, celle où la petite Claire Belle a été retrouvée vivante en Ontario. Un gros merci à Yves Perron, député fédéral de Berthier-Masquinongé, porte-parole en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, est venu nous parler logement et immobilier. Louis Bérard, le maire de Sainte-Élisabeth, a fait le point avec nous, considérant les problèmes qu'il connaît avec sa municipalité et surtout son conseil, ses conseils de ville. Merci beaucoup à Pierre Paquette. Un gros merci à François Morin, à Pierre Jubinville. Ici Michel Arnois, qui vous donne rendez-vous demain, même heure, même poste.